C'est en effet le moment de retrouver la compagnie des auteurs, une émission qui ne pourrait avoir lieu sans Anne-Vanessa Prévost, Corinne Amard, Didier Pinault, Laurence Millet et Gauthier Amiel, ni sans Bruno Gagnère-Fontanille aujourd'hui à la console.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, bienvenue. C'est la semaine de la langue française et de la francophonie jusqu'à dimanche. L'occasion pour nous de reparler de l'incroyable écrivain égyptien qu'était Albert Kosri, 1913-2008. Il est mort au premier jour de l'été, comme s'il voulait attendre l'avènement de sa saison préférée pour disparaître. Lui qui recherchait sans cesse le soleil dès qu'il apparaissait dans le ciel parisien, afin de retrouver sans doute les sensations de sa jeunesse en Égypte. Cette Égypte, il l'avait quittée pour devenir écrivain en France, à Saint-Germain-des-Prés, où durant 56 ans, il loua une chambre dans le même hôtel. Nous en parlions hier avec Frédéric Andreau, et cette émission est disponible en podcast. Demain, la photographe et réalisatrice Sophie Leys viendra nous parler de cet homme qu'elle a connu, qu'elle a même filmé. Elle nous parlera aussi de son livre de photographie, L'Égypte de Kosri, constitué d'images qui pourraient sortir tout droit de l'esprit même de l'écrivain. Enfin, jeudi, une émission spéciale, toujours placée sous le signe d'une langue française qui n'est pas celle de l'Hexagone. Je recevrai Patrick Chamoiseau pour une carte blanche à l'occasion de laquelle il nous parlera des livres qui l'ont aidé à devenir qui il est. Et aujourd'hui,
un regard de le monde s'agiter et paraître en habit d'imposture et de supercherie. On peut être mendiant et orgueilleux de l'être, porter ses guenilles sans en être appauvri.
Aujourd'hui, une émission en deux parties. Après la chronique de Philippe Roger, je recevrai l'éditrice Joëlle Losfeld, qui a beaucoup fait pour la reconnaissance de Kosri dans les années 90. Mais pour commencer cette émission, nous allons retrouver en duplex de Dublin l'universitaire spécialiste des littératures francophones, David Paris, qui va nous parler notamment des personnages de Kosri, parmi lesquels on trouve, bien entendu, quelques mendiants.
On voit sur le trottoir des maîtres philosophes qui n'ont jamais rien lu, mais qui ont tout compris.
Vous donnez aux mendiants leur lettre de noblesse, si je comprends.
Oui, oui, ils sont des aristocrates.
Pourquoi ?
Parce qu'ils refusent ce monde. Vous savez, même un esprit débile comprend que ce monde est mal fait, donc inutile de collaborer.
Ne sont que des taudis, ils vivent en seigneur dans une Babylone, au jardin suspendu de légumes et de fruits.
Inutile, oui, de collaborer avec le monde tant il est mal fait, disait Albert Kosri. Bonjour, David Paris.
Bonjour, de Dublin.
Merci beaucoup, oui, d'être avec nous en duplex. C'est un bon résumé, ce que l'on vient d'entendre dans cette archive. Un bon résumé de la philosophie de vie qu'avait Albert Kosri.
Eh bien, oui et non. Un personnage emblématique de Kosri, c'est le Redouane Ali dans un de ses premiers contes, et qui est l'homme le plus pauvre du monde. Il a pour toute possession un pot de chambre en terre cuite, et lorsque les marchands de quatre saisons d'or font trop de bruit, il largue son pot de chambre sur la tête de celui qui perturbe son sommeil et l'assomme, et tout le monde l'admire d'avoir sacrifié sa seule possession au monde à faire sa paix. Et puis, bien sûr, on a souvent l'impression que Mendiants et Orgueilleux, c'est le roman phare de Kosri, et que ce personnage de Gohar, qui vit dans un dénuement extrême, dormant sur des tas de journaux, n'ayant qu'une seule chaise dans une chambre très simple. C'est le personnage kosserien typique. Cependant, si on regarde dans d'autres romans, on trouve souvent de petits rentiers, qu'on considère par exemple Témour dans un complot de saltimbanque, ou Hécal dans la violence et la dérision. Ils vivent sans travailler et ont de petits revenus. Ce ne sont pas des hommes riches, ce sont souvent des dandys.
Alors, David et Paris, on va parler justement de tous ces personnages qui peuplent les romans de Albert Kosri. On entendra également tout à l'heure un extrait de Mendiants et Orgueilleux, et on pourra reparler du coup du personnage de Goar. Mais avant cela, je voudrais profiter du fait que vous êtes un spécialiste de la littérature francophone et que nous sommes aujourd'hui dans la semaine de la francophonie pour vous demander quelle est la place d'Albert Kosri dans cette littérature en français que l'on fête cette semaine ?
Eh bien, je ne sais pas s'il en a une, parce que la littérature francophone, ou les littératures francophones, la québécoise, la romande, finissent par constituer, en parallèle à la littérature française, d'autres canons littéraires avec leurs auteurs classiques. Donc on n'imagine pas la littérature romande sans Charles-Ferdinand Ramu, on n'imagine pas la littérature québécoise sans, mettons, Michel Tremblay, ou beaucoup d'autres. Et puis, Kosri ne s'intègre pas à une littérature ayant son propre canon littéraire. Il fait part de cavalier seul, si vous voyez ce que je veux dire. Mm-hmm. Il existe toute une littérature égyptienne de langue française. D'ailleurs, l'auteur Jean-Jacques Lutti en a fait l'inventaire dans plusieurs livres. Mais Kosri est doublement minoritaire puisqu'il ne s'intègre pas à la littérature française. Il aurait pu, comme d'autres auteurs établis en France, évoquer une réalité française. Il ne le fait pas. Il parle exclusivement de l'Égypte, mais néanmoins, c'est un Égypte qu'il a quitté et qui ne vit peut-être que dans son esprit. On connaît ce qu'on appelle la langue musée des exilés. Eh bien, il a une sorte d'Égypte qui n'existe que pour lui et qui est formée de ses souvenirs, je crois. Donc, mais il est très difficile à classer.
Est-ce que le fait qu'il n'ait jamais ou presque jamais écrit en arabe égyptien signifie pour vous quelque chose ?
Cela signifie que Napoléon est arrivé à la fin du XVIIIe siècle, a implanté la culture française, qui a joué toujours un rôle très important en Égypte. Il y a des écoles de langue française, comme le fameux Collège Saint-Marc à Alexandrie, par exemple. Et on peut dire de Kosri qu'il est, selon votre point de vue, ou le bénéficiaire ou la victime du système colonial.
Et selon votre point de vue, en est-il bénéficiaire ou victime ? C'est une victime de Napoléon, Albert Kosri.
Un de plus. On peut se demander pourquoi il n'a pas écrit en arabe, mais écrire en arabe n'est pas une chose simple. Il faut un long apprentissage grammatical. Si vous croyez que la grammaire française est compliquée, que la règle de l'accord du participe passé est byzantine, eh bien, essayez pour une fois la grammaire arabe et vous verrez ce que c'est qu'une langue avec des conventions grammaticales vraiment perverses. Si bien que, par exemple, son ami Georges Hénin, pourtant fin linguiste, n'a appris l'arabe qu'à l'âge adulte. Mmh. Donc il n'est pas du tout certain que Khosri ait pu connaître la langue arabe dans son école de jésuites, et cette langue française lui était peut-être aussi naturelle qu'une autre. Mais ce qu'il faut dire, c'est que son français se compose de deux éléments. Je dirais, en simplifiant un peu, un français classique et un arabe parlé.
Un arabe parlé que vous entendez à travers le français, donc un français réinventé.
Un français réinventé, à titre d'exemple, quand il parle à une personne, donc au singulier, toujours le tutoiement, pour le pluriel, le vouvoiement, conformément à l'usage arabe, et puis ça et là, des expressions assez ingénieusement traduites, comme « salut sur toi », donc « assalam alaikum », et parfois, mais pas souvent, un parala ou mon bé, qui sont des expressions arabes qui viennent émailler ça et là, mais très peu sa langue. Donc, on ne sent pas que ces expressions soient là pour faire arabe ou pour prêter de la couleur locale.
Alors David Paris, avant de continuer et pour nous mettre un peu dans l'oreille la prose de Khosri, je vous propose d'entendre, comme promis, un extrait de « Mendiants et orgueilleux » lu par Pierre Val.
Il lui semblait qu'il fallait faire quelque chose pour arrêter cette inondation. Mais quoi ? Le mieux était d'attendre. Un miracle se produirait certainement. Cette situation absurde réclamait un dénouement par des forces surnaturelles. Gohar se sentait d'avance désarmé. Il attendit quelques minutes, mais rien ne se produisit. Aucune puissance occulte ne vint le secourir. Il se leva enfin, resta debout, immobile, dans une attitude d'halluciné, de rescapé d'un naufrage. Puis, avec d'infinies précautions, il avança sur le sol détrempé et alla s'asseoir sur l'unique chaise qui meublait la chambre. À part cette chaise, il n'y avait rien d'autre qu'une caisse en bois retournée sur laquelle trônait un réchaud à alcool, une cafetière et une gargoulette contenant de l'eau potable. Gohar vivait dans la plus stricte économie de moyens matériels. La notion du plus élémentaire confort était depuis longtemps bannie de sa mémoire. Il détestait s'entourer d'objets. Les objets recelaient les germes latents de la misère, la pire de toutes, la misère inanimée, celle qui engendre fatalement la mélancolie par sa présence sans issue.
La compagnie des auteurs que vous écoutez. Nous sommes en duplex depuis Dublin avec David Paris. C'est vous qui nous parliez au début de cette émission de Mendiants et orgueilleux et de ce personnage de Gohar qui jette son pot de chambre sur la tête d'un passant qui fait trop de bruit et qui préfère donc se séparer d'un objet tout de même essentiel et qui était en plus le dernier objet qu'il possédait encore pour sa tranquillité. On a là du pur Albert Khosri. David Paris.
Eh bien, d'abord, ce n'est pas Gohar qui jette son pot de chambre. C'est un personnage épisodique dans le premier recueil de contes qu'a publié au Caire Khosri, mais qui contient déjà, à l'état embryonnaire, pratiquement toute l'œuvre de Khosri. On a tendance à faire l'amalgame entre Gohar et Khosri, et à se dire Khosri a vécu pendant de longues années dans la même chambre d'hôtel.
Sans toutefois jeter son pot de chambre par la fenêtre.
Non, ça ne se fait pas dans mon parc.
À Saint-Germain, non, ça ne se fait pas.
À Saint-Germain. Khosri n'a pas connu vraiment le dénuement de Goa, et tous les personnages de Khosri ne connaissent pas cette même misère. Et d'ailleurs, ce qu'il faut se dire, c'est que Goa n'est pas né mendiant, il est devenu, et parce qu'il le voulait bien. C'est un professeur, donc je me sens personnellement interpellé, et qui a commencé à avoir honte de son enseignement.
Mais ça ne vous est jamais arrivé à vous, David Paris.
Moi, j'ai pris la retraite, c'est la voie simple.
Vous vous êtes arrêté à temps, alors c'est ça?
Voilà. Mais il a renoncé à une existence bourgeoise qui était la sienne pour choisir la vie de mendiant. Et on enquête dans ce livre sur un meurtre dont Gohar est d'ailleurs responsable. Et l'inspecteur de police qui mène cette enquête, qui s'appelle Noureddin, ne comprend pas d'abord la décision de Gohar, et puis à force de le côtoyer, finit par adopter la même vie et abandonne son travail de policier et aussi l'enquête.
Mmh. Alors, ça me permet justement de vous poser la question de l'intrigue, la question de l'histoire. Diriez-vous que c'est important, l'intrigue, pour Albert Khosri, ou est-ce que, au contraire, cela n'a pas d'importance, David Paris?
Eh bien, pour moi, cela a tout au plus une importance secondaire. Dans certains romans, des romans policiers par exemple, on attend le dénouement pour savoir qui est l'auteur du crime. Ici, cela n'a pas d'importance puisque ce à quoi on se délecte, c'est le parcours et les descriptions. On a toujours l'impression qu'avec le matériel dont il dispose, Khosri aurait pu faire 3, 4, 5 romans. Et donc, à chaque chapitre, il y a toutes sortes de petits épisodes, d'événements, de parcours qui sont absolument fascinants et qui retiennent notre attention. Et puis, quand on arrive à la fin, on ne se dit pas quel beau dénouement, mais quel dommage d'être arrivé à la fin du roman.
Est-ce qu'on est dans le conte parfois ou dans une succession de petits contes ?
Je pense que votre question est très judicieuse. On pourrait être tenté de diviser l'œuvre de Khosri en un recueil de contes, Les hommes oubliés de Dieu, et puis d'une série de romans. Ces romans sont pourtant composés de chapitres, et chaque chapitre est pratiquement un conte à part. Et souvent même en lisant le premier chapitre, on a l'impression d'avoir affaire à un très beau conte. Maintenant, il y a des petits liens qui tissent une continuité entre les diverses parties du récit. Mais néanmoins, on a souvent l'impression de se trouver devant une série de contes.
Je vous propose d'écouter ce qu'Albert Khosri disait, David Paris, de l'origine de ces personnages.
À côté de vos personnages ou en couleur, je me demande comment est-ce que vous avez pu les inventer?
Mais justement, je ne les ai pas inventés. Ce sont des gens que j'ai connus. Et c'était même parfois des amis. Et je vous dirais que je garde leur nom, parce que dès qu'il y a un personnage avec un nom véritable et que vous changez de nom, je le perds, ce personnage. Et donc, souvent, dans mes livres, ils portent leur véritable nom. Et je n'ai rien inventé, et je n'invente rien. Je suis incapable d'inventer. Mais j'ai l'œil peut-être pour voir des détails les plus spectaculaires. Et des personnages aussi. J'ai toujours été entouré de personnages drôlatiques, qui aiment la vie, qui sont paresseux, qui voient la vie d'une certaine façon. Et donc, la plupart de mes personnages ne sont pas nés de mon imagination, ce sont des gens que j'ai connus.
Un entretien avec Eglal Herrera en 1986. Alors parlons un peu des personnages plus en profondeur, David Paris. Dans votre analyse des personnages de Kosri, vous vous arrêtez longuement sur les personnages d'homosexuels, voire d'homosocial. Alors vous allez nous expliquer un petit peu...
Eh bien,
ce
n'est pas tout à fait la même chose.
Non, ce n'est pas la même chose.
J'utilise ce mot qui est peut-être barbare et qui choquerait l'Académie, mais qui est utile puisque ça vient combler une lacune. L'homosocial, c'est l'amitié qui peut exister entre un groupe d'hommes. Alors, dans la plupart des romans de Kosri, on trouve un groupe de 3 ou 4 joyeux drilles qui se fréquentent beaucoup et qui n'hésitent pas à parler de l'amour qui existe entre eux et qui disent parfois qu'ils iraient facilement jusqu'à donner leur vie pour l'un des autres membres du groupe. Donc c'est vraiment un lien extrêmement fort, mais il existe aussi des personnages homosexuels en marge de cela et on voit très clairement la différence. Ces personnages sont certainement hétérosexuels, mais ce ne sont pas des hétérosexuels dont la sexualité est exubérante ou toujours couronnée de succès. Ainsi, pour revenir à Mendiants et Orgueilleux, Gohar ne semble pas avoir de pulsions sexuelles. Son ami Yegen a une écolière qui poursuit de ses assiduités, mais assiduités qui ne vont pas très loin puisqu'elles se réduisent à lui glisser à la main un poème de son invention de temps à autre quand elle rentre de sa leçon de musique. Et puis il y a El Cordi, révolutionnaire frivole, qui est amoureux d'une prostituée qui s'appelle Naïla, atteinte de phtisie, mais qui finalement ne l'aime pas de retour. Donc pas vraiment d'excès sexuel là-dedans. Et très souvent, il esquisse la possibilité d'une histoire d'amour, comme dans La violence et la dérision. À la première page, on voit le constructeur de cerf-volant, Karim, qui a une fille dans son lit, et puis il la renvoie, elle disparaît, tout le reste du roman se déroule, les péripéties se succèdent, et à la fin, voilà que, au dénouement, la fille remonte l'escalier jusqu'à son appartement, se glisse dans son lit, et nous sommes libres de deviner, de supposer ou d'inventer le reste.
Ce qui arrive. Mais quel est l'enjeu pour vous de cette question de la sexualité, de l'homosexualité ou pas, ou son contraire, de l'homosocialité dans l'œuvre de Kosri, David Paris?
Eh bien, des personnes qui s'intéressent au personnage Kosri disent souvent qu'il avait une vie sentimentale exubérante. Ce n'est pas ce qu'on trouve dans ses romans. La femme, la présence de la femme est réduite à très peu de choses. Et dans Mendiants et Orgueilleux, le grand événement, si l'on veut, de l'intrigue, c'est que le principal personnage, Gohar, tue par inadvertance et sans vraiment le vouloir une prostituée qui trouve seule dans une maison close où il s'occupe de la comptabilité. Et il la tue pour lui voler ses bracelets qu'il croit être en or et qui ne le sont pas vraiment, et ceci afin de se procurer de la drogue. Alors, on ne cherche pas à justifier ce meurtre, Et pourtant, la valeur morale, intellectuelle et autre de Gohard ne semble pas être altérée ou atteinte par cet horrible crime.
Mais peut-être que cela montre aussi une vision de l'amour qui est une vision de l'amour qui est rarement un succès. En fait, l'amour entre quelques personnes que ce soit, chez Kosri, est souvent assez tragique d'une certaine manière, assez peu passionné finalement, et peut-être se rapporte-t-il d'abord à un échange de bons procédés. On a fait la critique à Albert Kosri d'une certaine forme de misanthropie aussi, peut-être que cela se retrouve avec les femmes et également dans ses romans. Qu'en pensez-vous ?
Eh bien, ces femmes sont très souvent à peine des femmes. Ce sont des lycéennes, des filles en bas âge. Et il est rare de trouver un homme à l'âge adulte qui aime une femme ayant le même âge que lui. Donc, nous sommes très loin, du moins, de l'idée que nous nous faisons aujourd'hui de l'amour et des rapports sexuels dans le respect, le partage.
Mmh. Alors, on demandera tout à l'heure à Joëlle Losfeld ce qu'elle pense des personnages féminins chez Albert Kosri, mais je voudrais qu'on termine notre entretien, David Paris, en parlant un petit peu des idées, de la vision du monde de Kosri. On peut avoir l'impression que c'est une œuvre tout de même, de ce point de vue, assez homogène, qui reprendrait de livre en livre les mêmes thèmes. Est-ce que c'est le cas pour vous, David Paris, ou est-ce qu'il y a une évolution dans la vision du monde de Kosri au fur et à mesure des livres ?
Eh bien, il ne se répète pas beaucoup dans les romans, mais la vision du monde reste la même, dirais-je. Et il y a les membres du petit groupe que je qualifie d'homo social, et puis ailleurs, il y a, et là c'est un terme technique que j'emploie, les salauds ou les saligots, et qui font partie de ce qu'il appelle la duperie universelle ou l'imposture.
Et ce sont qui ces imposteurs, ces salauds et ces saligots ?
Il dit de façon assez énigmatique qu'on saura qui ils sont, mais je pense qu'on peut deviner que ce sont les banquiers, les industriels, les hommes politiques.
Les ambitieux.
Les ambitieux, puisque l'ambition est une mauvaise chose, et dans un de ses romans, qui est parmi ceux que j'aime le mieux, Une ambition dans le désert, un premier ministre a l'idée lumineuse de fomenter une révolution contre son propre gouvernement. Et puis, quel que soit le succès de l'affaire, ou il est le sauveur de la nation, ou il mène un nouveau gouvernement révolutionnaire. Et mais pourtant, c'est une imposture.
Ouais. Mais pourtant, ça n'est pas du tout un révolutionnaire. Albert Kosri, on pourrait même dire que c'est un anti-révolutionnaire, David Paris.
C'est un anti-révolutionnaire. Il y a certains personnages qui ont renoncé à l'idée de la révolution. Ainsi, dans La violence et la dérision, il y a Karim qui a été révolutionnaire et qui a même fait de la prison et qui s'occupe maintenant de fabriquer des cerfs-volants et qui rencontre un sinistre personnage du nom de Daher qui est un ancien camarade révolutionnaire. On met les deux ensemble et il y a un contraste saisissant.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Pas un révolutionnaire, donc, nous dites-vous, David Paris, c'est sur ce thème que nous nous quittons. Vous étiez en duplex de Dublin et je renvoie nos auditeurs à votre livre, Albert Kosri, Montreur d'hommes, c'est aux éditions Peter Lang. Merci beaucoup, David Paris. Dans quelques instants, nous allons être rejoints par Joëlle Losfeld, l'éditrice d'Albert Cosseri. Mais pour l'heure, c'est le moment d'En compagnie des revues, avec aujourd'hui Philippe Roger qui vient nous parler du sommaire de la revue Critique. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu.
Dans la revue Critique qui vient de paraître, vous consacrez votre dossier à ces ruées sur le monde qu'ont été les conquêtes occidentales et la décolonisation.
Et la colonisation, oui, on parle volontiers de passé colonial, mais ce passé est toujours présent. Et les ruées des conquérants, les ruées des colons ont dessiné la carte du monde, de notre monde. Il faut en parler. Et voilà l'idée de l'ensemble qu'a dirigé Marielle Massé, que vous avez reçu récemment, je crois.
Alors, dans ce dossier, vous faites parler à la fois des anthropologues, des historiens, des écrivains. Qui, donc, pour parler de ces ruées vers le monde?
Je crois que tout le monde peut en parler, devrait le faire, à commencer par ceux qui en vivent encore des effets, proches ou lointains. Vous savez que Critique est une revue où il est possible de faire se croiser des voies différentes, où les disciplines ne sont pas cloisonnées. Et je crois que c'est ce qu'il faut, cette polyphonie, pour faire entendre l'histoire des conquêtes.
Alors il y a notamment l'historien Romain Bertrand. Que nous apprend-il de ce point de vue-là?
Alors, c'est Emmanuel Saada qui parle de son livre, beau livre, Le long remords de la conquête, publié au Seuil, avec ce sous-titre Manille, Mexico, Madrid, l'affaire Diego de Avila. Et ça se passe entre 1577 et 1580. Alors, nous sommes aux Philippines. Un gamin a une syncope, on lui aurait donné une potion magique. En rêve, il voit des choses bizarres, il voit le gouverneur espagnol, le gouverneur est aux enfers. Le rêve se raconte, il circule. Évidemment, ça n'amuse pas le gouverneur, le cauchemar commence. Enquête, procès, le gamin condamné aux galères, les deux sorcières qui sont indigènes, celles qui ont donné la potion, donc condamnées à être écartelées. Et puis tout d'un coup, ça se brouille, ça s'effiloche. Le jeune Diego est envoyé à l'autre bout du monde. À Mexico, il est acquitté, les sorcières s'évadent, on perd leurs traces. Ténébreuse affaire, comme dirait Balzac, que Romain Bertrand éclaire magnifiquement. Micro-histoire et histoire globale.
Également de l'anthropologie, Alban Bansa.
Oui, alors avec Alban Bansa, nous filons vers la Nouvelle-Calédonie et vers la littérature orale. Alors, Alban Bansa, c'est un spécialiste de la culture kanak. Il écrit et il signe ce livre avec un historien néo-zélandais, Adrian Muckle, et un linguiste, Kakwe Yvon Goromwedo. Et le titre, magnifique titre là aussi, Les sanglots de l'aigle pêcheur.
Vous n'avez choisi que des titres magnifiques, de toute façon.
Oui, c'est comme
pour
ça qu'on
ce
choisit.
Numéro de critique.
C'est comme ça que nous choisissons les livres. Ce livre fait revivre la guerre kanak de 1917, bien oubliée de nous. Une guerre contre le colonisateur français, notamment. Il le fait revivre à travers la tradition poétique qui a perpétué sa mémoire. Et Albert Bansa, j'ajoute cette note, est un ethnographe peu banal. Engagé, solidaire des luttes qu'il décrit, mais engagé aussi dans un devenir kanak, comme aurait dit Gilles Deleuze. Par adoption, il est devenu Kaa Poadé, son nouveau nom en Nouvelle-Calédonie. Toute une histoire, là encore, personnelle, Nouvelle-Calédonienne mondiale.
Alors l'histoire, l'anthropologie, et puis évidemment Critique, c'est quand même une revue pour les écrivains. C'est Éric Vuillard que vous êtes allé interroger.
C'est Éric Vuillard qui est l'auteur de Conquistador et aussi de Congo et encore de Tristesse de la Terre, qui raconte les tournées du Wild West Show. Ce spectacle qu'avait créé Buffalo Bill et qui a tourné dans toute l'Europe. C'est le blanc vainqueur qui exhibait l'Indien vaincu en la personne de Sitting Bull, le vrai Sitting Bull. Ici, c'est la conquête sans le remords, c'est l'extermination qui devient spectacle forain. Et on peut dire, après la ruée, c'est la curée. Et dans l'entretien qu'il nous a accordé, Éric Vuillard parle de ce monde où 8 personnes possèdent la moitié de la richesse mondiale. C'est le nôtre, vous
en
avez entendu parler.
En effet,
saut quantitatif et qualitatif, dit Éric Vuillard, dans l'inégalité, qui nous laisse désemparés, politiquement et intimement. Et Éric Vuillard nous compare à un autre forain, beaucoup plus sympathique, le Zampano de Fellini. Je cite Vuillard, « Au fond, nous sommes peut-être tous comme Zampano, le héros de la Strada, nous avons abandonné quelqu'un par un petit matin glacé, et depuis, sans même le savoir, nous le cherchons partout. » Et la littérature, elle sait faire le raccord entre les terreurs de l'histoire et ces désarrois-là, ceux de l'intimité.
Voilà, et tout ça dans le numéro de Critique actuellement en librairie. Il y a évidemment beaucoup d'autres choses et plus encore de littérature. Merci Philippe Roger. Culture. On continue de parler d'Albert Cossery dans la compagnie des auteurs. Nous sommes à présent rejoints par son éditrice, Joëlle Losfeld.
Vous êtes venu, vous
savez, je ne suis pas un écrivain qui écrit chaque année un livre.
Ah oui, ça c'est très,
difficile d'écrire si on est lucide et qu'on voit bien que ce qu'on écrit est mauvais. Mais comme la plupart de mes collègues adorent écrire n'importe quoi, ils sont si contents d'eux qu'ils publient chaque année, chaque deux ans, un livre. C'est tout.
Avec vous, je suis tranquille, au fond. Oui. Je ne suis pas accablé, c'est ça que vous voulez faire comprendre. Oui, mais cette modestie...
C'est pas de la modestie.
Non, c'est de la clairvoyance.
Non, c'est de l'orgueil.
J'allais le dire.
Vous savez, mon titre, Mondiants et orgueilleux, c'est une conception de, ma conception de la vie. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'être riche pour attester de ma présence sur cette terre. Même sans le sou, je suis un prince.
Je ne sais pas pourquoi tout le monde reste quoi. A-t-on perdu la voix ou le silence fait loi?
Albert Cossery était là au micro de Roger Vrigny. Bonjour Joëlle Losfeld.
Bonjour.
Ce sont des souvenirs pour vous, j'imagine, cette voix.
C'est évidemment des souvenirs qui datent de 20 ans, un peu plus de 20 ans, puisque j'ai commencé à éditer Albert en 87. Je précise quand même, contrairement à ce qui est dit, c'est que je ne suis pas la seule éditrice d'Albert. Et ça constitue un cas assez particulier dans l'histoire de l'édition, puisque c'est un auteur qui n'est pas extrêmement connu, mais qui a quand même
un public
et il a toujours été édité. Alors il a été édité par Charlot, qui a été le premier éditeur de Camus, et ensuite il a été édité par Hachette, par Gallimard, par Lafon, par Cyril Godefroy, par voilà. Donc il a jamais été en vacances d'éditeur. Et je tiens à le signaler parce que c'est assez rare quand même dans l'histoire de la littérature que un auteur qui n'est pas encore une fois mondialement connu soit repris à chaque fois sur une longue période.
Comment vous expliquez ça, que les éditeurs l'est toujours suivi et que les lecteurs l'est aussi pour un noyau très fidèle d'entre eux suivi?
Moi, le début de son histoire littéraire commence avec Henry Miller et puis Charlot et Camus et ensuite continue avec Queneau dans la belle époque des éditions Gallimard. Donc il a ses lettres de noblesse à ce moment-là. Donc on ne sait pas très bien les chiffres, mais il est quand même relativement connu. Et puis ensuite, il y a une redécouverte de son œuvre parce qu'elle paraît essentielle d'une certaine façon dans ce qu'elle dit de la société, de ce qui se passe, et elle est à la fois extrêmement, pour les gens qui sont très jeunes et qui l'ont redécouvert il y a pas très très longtemps, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, vecteur d'un certain espoir dans justement une société qui serait terriblement affaiblie par le pouvoir de l'argent ou par la corruption ou par un certain nombre de choses. Et bon nombre de ces jeunes lecteurs lui ont véritablement rendu hommage en disant oui, on n'est pas obligé de vivre comme on nous a dit de vivre, c'est-à-dire en étant riche, ambitieux et guerroyant.
Et en même temps, vous qui l'avez bien connu, on va en parler, pouvez-vous saisir si ce choix de vie très radical d'Albert Cossery, un choix qui est aussi un non-choix parce qu'on comprend bien qu'il est aussi dans une tradition familiale, dans son refus du travail, est-ce que ce choix de vie l'a rendu heureux ?
Je pense que rien ne pouvait le rendre plus heureux que ce choix de vie. Je veux dire, probablement, il en a eu, et plutôt à la fin de sa vie, parce qu'il était malade, mais des inconvénients, évidemment. Mais je crois qu'il ne pouvait pas concevoir de vivre autrement. Enfin, il aurait pu vivre autrement. Je veux dire, il aurait pu... il a connu quand même un certain nombre de gens, avoir des peintures, des sculptures. Il me disait toujours, si j'avais eu ça, je les aurais vendues pour pouvoir vivre ma vie comme j'avais envie de la vivre. Donc oui, je pense que ça l'a rendu tout à fait heureux et non contraint par les exigences matérielles.
Parce qu'il y a quand même des personnages dans un certain nombre de ses romans qui aspirent à travailler et qui rêvent de travailler. et qui n'y arrive pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, c'est la question qu'on se pose parfois en lisant ces livres, un regret de ne pouvoir, au fond, être davantage, peut-être pas dans un flux débordant d'activité, mais peut-être un peu davantage avec les autres, à faire des choses avec les autres.
Ouais, je pense qu'il a fait beaucoup de choses avec les autres, contrairement à ce qu'on pense. Il faut toujours se méfier des mythes comme ça, que lui-même d'ailleurs a instauré et continué, parce que ça ne l'intéressait pas de raconter sa vie véritablement, mais il a vécu avec d'autres personnes, il a eu beaucoup d'amis, il a rencontré beaucoup d'auteurs et beaucoup d'écrivains avec lesquels il parlait quand même, enfin il se contentait pas d'aller danser et draguer, il parlait quand même avec un certain nombre de gens, il avait des dialogues extrêmement constructifs, et notamment avec un de ses meilleurs amis, Michel Mitrani, dont il a fait une conversation très intéressante et filmée par Lina. Donc il avait ça, il faisait du cinéma, il y avait des scénarios, enfin, je veux dire, voilà. Simplement, quand il avait pas envie de le faire, il ne le faisait pas. Voilà. Il avait cette possibilité de refuser tel ou tel projet. Mais il n'était pas dans une solitude totale, comme on veut bien de temps en temps le faire croire, pas du tout. Il était même plutôt assez entouré, assez aimé et admiré aussi. Voilà, il n'était pas du tout reclus. Enfin, je veux dire, on est loin du personnage qu'on voudrait nous faire croire, c'est-à-dire celui qui habite à l'hôtel. Au contraire, pour lui, c'est une non-contrainte d'habiter à l'hôtel, parce que, comme il disait, je n'ai pas à me soucier justement de déplacer un plombier, un électricien, etc., etc. Et puis, contrairement à ce qu'on pense, habiter à l'hôtel, c'est pas forcément un signe de pauvreté, hein. C'est voilà, lui il avait la chance d'habiter à l'hôtel depuis très très longtemps et d'avoir un loyer qui était relativement faible. Bon, donc voilà, vu ça. Mais non, je pense que vraiment il vivait sa vie comme il avait envie de la vivre et
sans regret.
Je crois sans regret, vraiment.
Alors reprenons peut-être la relation que vous avez eue avec lui. D'abord, vous l'avez rencontré quand vous étiez reporter à Jeune Afrique. C'est la première fois que vous l'avez vu. Est-ce que vous vous souvenez à la fois de cette rencontre et de la connaissance que vous aviez, ou qu'au contraire, vous n'aviez pas de son travail?
Alors, je n'avais aucune connaissance de son travail. Je suis arrivée le premier jour à Jeune Afrique et on m'a dit, tu pars tout de suite en reportage sur faire un reportage sur les écrivains égyptiens qui habitent en France.
Parce qu'il y en avait beaucoup.
Alors, il y en avait... Alors, Georges Hénin était mort, donc j'ai rencontré la femme de Georges Hénin, j'ai rencontré Joyce Mansour et j'ai rencontré... Albert Kosri, qui habitait à la Louisiane déjà, enfin déjà, je veux dire, depuis un certain temps. Et j'ai évidemment lu tous ses livres, hein, ce qui a été pour moi une porte d'entrée, parce que ce qu'il ne supportait pas, c'est les journalistes qui venaient et qui n'avaient pas lu ses livres. J'en ai vu un certain nombre se faire renvoyer dans les cordes parce que on ne s'appesantissait que sur le fait qu'il habitait à l'hôtel, que...
Oui, sur la légende.
Voilà, la légende. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était ce qu'il disait dans ses livres. Pas forcément d'ailleurs sur l'Égypte, parce que je pense que, justement, ce sont des livres qui situent en Égypte dans une espèce d'enfance heureuse et oubliée, enfin pas oubliée, justement, toujours personnelle, mais qui tient compte d'un certain nombre de paramètres universels. Et c'est ce qui m'intéresse dans l'œuvre de Kosri, c'est pas simplement quelqu'un qui s'exprime sur l'Égypte et sur des choses qui seraient très particulières par rapport à l'Égypte, mais justement, ça englobe chez lui des problématiques qui sont bien plus universelles que de la réduction à un monde qui serait basé au Moyen-Orient.
Est-ce que vous avez une scène en particulier d'un livre à laquelle vous pensez, ou un personnage auquel vous pensez quand vous pensez à Kosri, parce qu'il vous est plus cher qu'un autre?
Je n'ai pas une scène particulière, enfin une
ou un
scène
personnage.
Particulière, mais moi je pense que les fainéants dans la vallée fertile est pour moi une sorte de chef-d'œuvre. D'abord parce que bon, c'est effectivement la mythologie familiale, bien sûr, puisqu'on imagine que dans cette maison où vivent un certain nombre de personnes, c'était comme ça qu'on vivait chez les Kosri.
Mais parce qu'il y a le grand-père qui fait beaucoup penser au grand-père de Kosri.
Voilà, ouais. C'est ça. Bon, mais surtout il y a une scène formidable, je trouve, où un des jeunes frères veut aller travailler. Et là, il y a une rébellion absolument totale de la part de la famille.
Il veut aller à l'usine.
À l'usine.
Et il va tous les jours voir si l'usine qui est en travaux,
voilà,
va finalement être terminée,
voilà,
un jour.
Voilà. Et aux grandes dames, évidemment, de ses frères et parents qui lui disent « Malheureux, qu'est-ce que tu vas faire ?» Enfin, je veux dire, quel crime vas-tu commettre en allant travailler ?
C'est ce directeur de cette revue qui s'appelait Stavrinos, qui publiait La Semaine égyptienne, qui avait publié ses nouvelles dans sa revue et qui a la publié en tant qu'édition, en tant qu'éditeur.
En français.
Oui, en français. Alors, ce livre a été traduit en anglais.
La même année.
Non, c'est une autre maison qui s'appelle Édition Mas qui l'a publié.
Et en arabe?
Non, en arabe, elle n'a été publiée que deux nouvelles dans une revue qui s'appelle Al-Tatawur.
Le Progrès?
Oui, c'est ça. Et elle a été à la troisième nouvelle parce que le censeur ne lisait pas une nouvelle, puisque pour lui, une nouvelle ne pouvait pas être subversive. Donc il l'a laissé passer, mais comme ça a fait un scandale, à la troisième nouvelle, il a complètement blackboulé.
Reconnu Joël Losfeld, la voix d'Oum Kalsoum. C'est assez incroyable de penser que les livres de cet Égyptien qui parle essentiellement de l'Égypte n'existent pas en égyptien pour les Égyptiens, comme il le disait dans cette archive.
Oui, c'est toute l'ambivalence ou l'ambiguïté, je veux dire, des personnes qui partent du pays et qui construisent leur carrière, entre guillemets, évidemment, en parlant de Kosri, dans un autre pays. C'est vrai que beaucoup d'écrivains égyptiens et de jeunes écrivains égyptiens à l'heure actuelle ne considèrent pas Albert Kosri comme Mahfouz, par exemple, parce que il est parti de l'Égypte et à quel titre parle-t-il encore de l'Égypte alors qu'il ne vit pas la réalité égyptienne?
C'est vrai qu'il parle d'une Égypte des années 30.
Il parle d'une... d'une Égypte de son enfance heureuse. C'est-à-dire que c'est l'enfance qui ressurgit à travers ce qu'il décrit de l'Égypte. Néanmoins, la réalité égyptienne, elle existe quand même. Quand on lit Les couleurs de l'infamie, qui est son dernier livre, on voit bien l'état d'appauvrissement total de l'Égypte, où les gens logent dans les cimetières, etc., etc. Néanmoins, il est considéré, encore une fois, par exemple, si on l'oppose à Mahfouz, il a beaucoup plus d'humour que Mahfouz, mais Mahfouz est quelqu'un qui est impliqué dans l'histoire de l'Égypte, qui tient salon dans un café, plus exactement, en Égypte, alors que Kosri est parti vers la France et on peut considérer que certains peuvent considérer qu'il a déserté d'une certaine manière son pays.
À tel point qu'il est revenu avec François Mitterrand, il a fait un voyage officiel, alors l'aller-retour dans la journée en avion, et c'était très étrange pour lui parce que il était un écrivain égyptien, mais dans la délégation française, oui, qui rencontrait les Égyptiens, et du coup il était en dehors finalement de son propre peuple, de son propre pays, et puis aussi en dehors de la délégation elle-même, parce qu'il pouvait se trouver en décalage avec elle.
Oui, mais c'est aussi une posture, enfin une posture au sens plutôt bonne du terme, c'est-à-dire que de toute façon Albert Kosri a toujours tenu à être un tout petit peu en marge. C'est pas véritablement pour se distinguer, mais c'est tout simplement parce qu'il n'a pas envie d'être considéré dans la masse des gens qui pensent la même chose, ou etc., etc. Il faut quand même pas oublier quand même que Kosri est revenu très largement et très souvent en Égypte, puisque sa famille habitait en Égypte jusqu'à la mort de son frère, de son dernier frère. Il y est retourné très régulièrement et il a connu quand même l'Égypte. C'est pas simplement une Égypte totalement fantasmatique qui daterait de ses 18 ans ou de ses 20 ans. Donc mais c'est vrai que il disait, il a été très peu traduit en Égypte. ça commence quand même un petit peu, mais il disait lui-même qu'il avait été traduit quand même en égyptien, enfin dans la langue, et que son traducteur était encore plus paresseux que lui, qu'il avait oublié un certain nombre de chapitres et de choses comme ça qu'il voilà.
Bon, en même temps, c'était une boutade. C'est quand même un traducteur paresseux qu'il fallait pour bien traduire Cosri, oui. J'imagine, Joël Losfeld. Donc tout à l'heure, avec beaucoup d'élégance, d'ailleurs, vous avez signalé que vous n'étiez pas la seule éditrice d'Albert Cosri, mais enfin quand même, c'est vous qui avez ressorti à un moment donné le fonds Albert Cosri. Comment ça s'est passé ?
Mais écoutez, ça s'est passé quand j'ai repris la maison de mon père, qui était en 86.
Vous signalez d'ailleurs qu'Eric Losfeld, votre père, avait publié quelques jours avant sa mort en 79 un livre intitulé « Entêté comme une mule » et que ce livre reparaît justement ces jours-ci.
Aux éditions Tristram.
Voilà, de François Guérif.
Et donc j'ai appris que les livres d'Albert Cosri étaient libres de droit. Je pense qu'il y en avait qu'un seul qui était encore chez Gallimard.
Donc ça signifie que les éditeurs à ce moment-là l'avaient un petit peu abandonné quand
oui,
même.
Oui, mais pour ça faisait un an qu'il l'avait abandonné. Il y avait Jean-Cyril Godefroy qui avait publié quand même deux livres de lui, mais c'est vrai que Julliard avait abandonné, Lafont aussi, Gallimard quasiment. Voilà, donc j'ai repris effectivement tout le fond de Cosri. Je suis allée le voir à la Louisiane puisque c'est là où j'avais fait la première interview, et puis on a convenu d'un rendez-vous chez Lip, puisque c'était ses tropismes géographiques, et on a conclu un contrat extrêmement dérisoire.
Grâce à un geste ou deux que vous avez su faire, comme il fallait, a expliqué hier Frédéric Andreau.
Oui, il paraît que c'est parce que je suis une femme, mais je crois que c'est une boutade, ça, quand même.
D'ailleurs, on disait en première partie que les personnages féminins d'Albert Cosri n'était pas forcément très présent ou très bien traité. Quel est votre œil de femme sur les personnages féminins d'Albert Cosri ?
Ah ben, c'est sûr que ce sont des personnages qui sont... Alors, là encore, on peut voir ça d'une façon extrêmement désagréable. C'est-à-dire que les femmes sont soit des jeunes femmes hein, qui sont...
Belles.
Jeunes et dont les hommes un peu mûrs sont attirés par elles parce qu'elles sont ce qu'elles sont. Ou bien des prostituées, qui sont pas exemples d'ailleurs d'énormes qualités dans la façon dont il le fait. Donc on peut dire que effectivement il y a un côté un peu misogyne chez Cosri. Néanmoins, ce qu'il faut voir quand même, c'est que pour ce qui me concerne, je vois plus une attaque contre un virilisme extrêmement développé dans la société que quelque chose contre les femmes. Parce qu'on peut aussi voir, dans les portraits de femmes qu'il fait, une constatation sur le fait que les femmes sont quand même mal loties dans notre société, dans les sociétés auparavant. Voilà, c'est ambivalent comme situation, c'est-à-dire que pas à 100% convaincu qu'il n'était pas misogyne, mais je ne suis pas non plus convaincu qu'il ne faisait pas un constat qui était sur la dévalorisation des femmes dans la société. Et par ailleurs, juste pour les jeunes femmes, c'était aussi parce qu'elles n'étaient pas encore corrompues par les pouvoirs que les hommes avaient et pouvaient leur donner. C'est vrai qu'à un moment donné, les femmes, quand elles commencent à travailler, elles deviennent l'égale des hommes, donc corruptrice, ambitieuse, voulant de l'argent, etc. Donc, ils ne les aiment pas plus qu'ils n'aiment les hommes qui font ça, voilà.
Oh, puis c'était un homme né en 1913.
Absolument.
Donc élevé dans un autre...
Tout à fait.
Dans un autre siècle, en fait, ouais. Quasiment. Ouais. Il a quand même publié, ou plutôt vous avez republié Mendiants et Orgueilleux, parce que d'abord vous avez republié dans l'ordre chronologique, oui. Puis après vous avez publié les œuvres complètes hein, qui sont toujours disponibles chez vous. Mendiants et Orgueilleux, et on terminera là-dessus, quand vous l'avez republié, c'était quand même 50 000 exemplaires vendus. Je vous repose un peu la question que je vous ai déjà posée. Qu'est-ce qui est si fort dans cet écrivain qui n'était pas médiatique, il a juste fait un passage à la télé à nulle part ailleurs un jour, et qui plaît autant, qui touche autant les lecteurs?
Non mais là, voilà, bon, on va parler de cette émission qui a été quand même extrêmement intéressante là-dessus. C'est que il n'était pas du tout attendu dans une émission qui s'adressait à un public de 15 à 25 ans. Or, il y a un assistant, l'assistant d'Antoine Decaune, qui était pris d'un amour fou pour Albert Cosri, qui a décidé de le faire passer, et tout d'un coup, on a découvert qu'un homme de 85 ans pouvait être aussi jeune et aussi subversif qu'un homme de 20 ans. Voilà.
Merci beaucoup Joël Losfeld. Les œuvres complètes d'Albert Cosri sont donc disponibles aux éditions qui portent votre nom. Demain, deux invités pour terminer notre série. La réalisatrice et photographe Sophie Leys, elle viendra nous parler en première partie de l'Égypte de Cosri. Et puis Aliette Armel nous rejoindra pour évoquer l'homme qu'elle a interviewé également à plusieurs reprises et nous livrer son analyse de ses textes. Tout de suite, c'est Jacques Bonafé et la poésie de Claude Bert toute cette semaine.
Bonjour. Trouvez dans « Il y a des choses que non » de Claude Bert cette révérence à Lucrèce. Lucrèce, oui, le poète de Rerum Natura, pas l'héroïne de Borgia. Écoutez. Le je n'est pas le moi, ni l'ego le sujet, c'est ce sujet pensant, épelant l'univers à la marche alternée de dactylans pondés qui de lui s'est défait, en égrenant sa perte et son écho s'éteint comme à un cœur le souffle de l'innommé tressaille au présent éclaté de notre multitude où tâtonnent les mots et notre humanité à devoir s'inventer. Car Claude Bert mêle à son champ de résistance sa question sur l'espèce humaine soumise au profit qui fait sacrifie d'autres espèces ou les produit pour les faire disparaître. Quelle drôle d'espèce que la nôtre aujourd'hui, célébration de l'espèce de Claude Bert. Comme tous ceux de mon espèce, je voudrais célébrer mon espèce, car mon espèce célèbre le tout du tout de mon espèce. Mon espèce célèbre le bonheur et la peine de son espèce, la douleur et la jouissance de son espèce. Mon espèce célèbre la naissance, la mort, les âges, les séparations, les retrouvailles de son espèce. Mon espèce célèbre la joie, l'extase, la souffrance, la folie, l'horreur, les crimes de mon espèce. Mon espèce célèbre les saints, les artistes, les poètes, les savants, les sages, les héros, les rois, les prophètes, les faux prophètes, les bourreaux, les martyrs, les tyrans, les criminels de mon espèce. Ainsi est mon espèce qu'elle célèbre le n'importe quoi de son espèce qui se réjouit autant de la vie que de la mort de son espèce. Car mon espèce est une espèce qui détruit sa propre espèce. Mon espèce s'extermine au nom du mal comme du bien, du passé comme de l'avenir de son espèce. Mon espèce massacre mon espèce au nom de ses terres, de ses dieux, de son or, de ses croyances comme de ses incroyances. Tout rentre, tout fait ventre dans le carnage de mon espèce par mon espèce. Mon espèce est le meilleur auxiliaire de la mort et des souffrances de son espèce. Mon espèce étripe mon espèce au nom de l'amour, de la liberté, de la justice, de la vérité et de tous les anciens et futurs paradis de l'espèce. Mon espèce ravage mon espèce au nom de l'humanité comme de l'inhumanité de mon espèce. Mon espèce pollue ce qu'elle invente de plus sacré dans le fumier de mon espèce. Et mon espèce tue et traite les autres espèces comme sa propre espèce. Mon espèce entasse les bêtes qu'elle mange dans des hangars où elles pourrissent vivantes et enferme dans des camps où ils pourrissent vivants les membres de son espèce. Mon espèce viole les femmes et les enfants de son espèce. Mon espèce pend, fusille, bombarde, gaze, démembre, écorche, poignarde les hommes, les femmes et les enfants de son espèce. Ainsi est mon espèce plus sanguinaire et malfaisante que toute espèce. Même les porcs ont plus de parcelles divines dans leur couenne que mon espèce. Même les porcs ont plus de chances de gagner l'éternité que mon espèce qui martyrise toute espèce, y compris sa propre espèce. Il y a des choses que non.
La poésie de Claude Bert, lue par Jacques Bonafé. Très bon après-midi à tous.